Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de vous être déplacés pour cette rencontre, cette table ronde intitulée « Genre et école ». Table ronde pour laquelle nous avons l'honneur d'écouter ce soir, dans l'ordre, Brigitte Estève Belbeau, philosophe, qui a écrit à mes côtés le livre « Genre » sous-titré « L'essentiel pour comprendre ». On écoutera à la suite Sylvie Héral qui est docteur en sciences de l'éducation et qui vient de sortir avec Yves Rébeau un livre intitulé « Pour en finir avec la fabrique des garçons ». Prendra la parole Maud Yostoma qui est co-responsable avec Karine Espineira et moi-même de l'Observatoire des transidentités. Et qui a dirigé le livre intitulé « Tableau noir, les transidentités et l'école », le quatrième volume de la revue « Les cahiers de la transidentité ». Alors pourquoi avoir réuni tous ces auteurs aujourd'hui autour de ce thème d'actualité, genre et école ? Eh bien parce qu'il nous semble qu'il est temps de revenir sur les incompréhensions autour de la question du genre, notamment autour de la question du genre inscrite dans le système scolaire. Chaque auteur en dira quelques mots, mais pour vous mettre quelque chose sous la dent, une anecdote. Tout à l'heure, à l'instant, il y a une demi-heure, nous sortions de ces mêmes locaux avec Brigitte et Maud, et puis à la lecture de l'affiche annonçant la rencontre, genre et école, quelqu'un nous apostrophe et nous dit, les mots sont les suivants, genre et école, on va encore changer des garçons en filles, alors que, nous prenant à partie, vous comprenez, instinctivement, les garçons choisissent les camions et les filles choisissent les poupées. Alors c'est peut-être contre cette vision ou à l'encontre de cette vision un peu directe, un peu facile, de l'instinct, du masculin et du féminin, que nous allons travailler aujourd'hui, autour donc de trois intervenantes que je remercie encore d'être présentes. Brigitte, la parole est à toi.
Merci Arnaud. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter le plus succinctement possible cet ouvrage qui s'appelle « Genre, l'essentiel pour comprendre » et qui est présenté avec un point d'exclamation. Un point d'exclamation à la manière dont les élèves de collège utilisent l'expression et qui est une manière aussi peut-être d'essayer d'avoir un petit peu de distance. Et en l'occurrence, un petit peu de distance, c'est aussi un petit peu d'humour dans cette situation où parfois les positions sont tellement crispées qu'on a l'impression que rien ne peut être dit parce qu'on s'accroche aux mots comme les titans s'accrochent à la montagne. Alors, c'est un des éléments que j'aimerais évoquer avec vous ce soir et qui a été à l'origine du livre. Bien sûr, à l'origine de ce livre, il y a une amitié entre Arnaud Alessandrin et moi-même, un temps d'expérience et de partage de séminaires vieux de plusieurs années, mais aussi un climat de polémique autour du mariage pour tous et un climat où on entend des choses assez catastrophiques dans le cadre scolaire et ailleurs, des choses qui confinent peut-être à l'absurdité, en tout cas à l'irrationalité de manière certaine, et qui du coup font assez peur parce qu'on se dit s'il y a des parents qui croient à ce genre de choses, alors tout est possible en termes d'attitudes et de comportements qui peuvent être y compris extrêmement violents. Et je voudrais insister sur ce point parce que lorsque on assiste à des situations où des parents ne mettent plus leurs enfants à l'école parce qu'ils ont peur, et il faut entendre cette peur, ils ont peur qu'on transforme les garçons en filles, les filles en garçons. Ils ont peur qu'il y ait des manipulations sur les esprits des enfants. Alors, effectivement, la situation est pour le moins préoccupante. Donc, l'origine du livre, elle tient également à cela, c'est-à-dire essayer, hein, vous allez voir que ça reste une intention modeste, essayer d'offrir à toutes les personnes, qu'elles soient à l'université lorsqu'elles font des études sur ces questions-là, qu'elles soient parents, grands-parents, qu'elles soient éducateurs, qu'elles soient enseignantes, qu'elles soient formateurs, formatrices dans de nombreux domaines, eh bien, une boîte à outils pour essayer de ne pas dire n'importe quoi sur des termes qui, au départ, sont des concepts. Et lorsqu'on est face à des concepts, eh bien, on se dit qu'il y a eu une construction intellectuelle, parfois exclusivement universitaire, parfois aussi clinicienne, et il y a un travail qu'il s'agit donc, dans un premier temps, de respecter. Dans ce qui nous a conduit, en tout cas, qui a prédéterminé ce travail, il y a donc cette idée, non pas d'en finir avec des préjugés, ce serait d'une naïveté déconcertante, mais en tout cas de permettre à tout un chacun d'attraper un ouvrage comme celui-ci. Alors, il est un tout petit peu grand pour être un manuel au sens antique où il tiendrait dans la main, mais en tout cas de se dire « Ah oui, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, le rapport entre genre et femme, alors je vais aller voir, parce que là, il y a un article de 2 pages, et ça va peut-être m'aider à comprendre un peu mieux ce qu'on entend par là. » Donc ça, c'est voilà, le premier point que je voulais évoquer devant vous, c'est-à-dire les circonstances qui ont permis que ce livre émerge. Un autre point est évidemment décisif dans ce genre de situation, c'est de trouver un éditeur qui veuille bien éditer quelque chose dans une période où parler du mot genre, ça fâche tout le monde. D'accord ? Eh bien, nous avons trouvé effectivement un éditeur qui a soutenu ce projet. Et donc, ce projet a consisté, pour Arnaud et pour moi, mais peut-être encore plus pour Arnaud que pour moi, à essayer de co-diriger 30 chercheurs, militants, cliniciens, sur ces questions de genre, et donc à leur proposer un travail qui visait, alors je vais utiliser le terme de vulgarisation, mais c'est un terme qui est parfois connoté négativement. Alors je vais emprunter, et je parle sous la tutelle d'un certain nombre d'entre vous, je vais emprunter un mot que je trouve extrêmement juste, en en donnant un sens très commun, c'est le terme de passeur. Ce que nous avons essayé de faire ici, c'est un travail de passeur, dans les deux sens, c'est-à-dire permettre que des travaux d'universitaires sur des questions qui ont à voir avec le genre, concept que je vais définir dans un instant, au moins dans 2 de ces acceptions les plus communes. Donc, permettre que ce travail-là puisse être connu de personnes qui n'ont pas fait spécialement d'études universitaires poussées. Et deuxièmement, permettre que des situations de vie souvent invisibles, souvent difficiles pour des personnes qui sont homosexuelles, pour des personnes qui sont trans ou transgenres, soit connu et rendu accessible par le biais de ce livre. Donc on a vraiment essayé de faire en sorte que l'universitaire descende à la portée de tous et que des vies qui ne sont pas visibles puissent être rendues visibles par ce biais-là. Voilà le travail qui a été mené. Alors depuis un moment, j'utilise la notion de genre. Je vais donc au moins en donner maintenant 2 acceptions extrêmement simples, une qui va être reprise par Sylvie tout à l'heure certainement, et que vous trouvez d'ailleurs dans le livre. Le genre, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va se distinguer de la notion de sexe dans un premier temps. Lorsque l'on considère que le sexe est une dimension biologique, eh bien, on considère que le genre est la manière de vivre son sexe. Et cette manière de vivre ce sexe, elle est plus ou moins harmonieuse. Donc ça, c'est un tout premier élément pour comprendre cette notion. Le deuxième élément que je porte et qui est complémentaire de celui-ci, c'est que très souvent, quand on parle de genre en politique, en médecine, si par exemple vous regardez ici l'article « genre et politique » ou l'article « genre et médecine », eh bien vous verrez que « genre » signifie « distinction homme et femme, fille et garçon ». Donc jusque-là, vous voyez, rien de compliqué, rien de polémique. La troisième acception, ou plus exactement la deuxième si on considère que les 2 premières sont complémentaires, c'est une définition que j'emprunte à la philosophe par qui le scandale est arrivé, au moins en France, mais certainement bien ailleurs, à savoir Judith Butler. Et la définition qu'elle donne me semble extrêmement importante parce qu'elle ouvre des horizons pour réfléchir là encore en essayant d'être le moins polémique possible. Elle nous donne la définition suivante. Le genre est une pratique d'improvisation dans une scène de contrainte. La scène de contrainte, ce sont les dimensions biologiques. Il n'est pas question de nier des dimensions biologiques. Le donné naturel, c'est aussi, bien entendu, les déterminations socio-culturelles dans lesquelles nous vivons. Et l'improvisation, c'est ce que chacun d'entre nous, quelle que soit son identité de genre, fait de sa vie à partir de la synthèse qu'il tente d'élaborer et de bricoler au jour le jour avec les injonctions normatives qu'il reçoit. Donc c'est, pour le dire dans un langage un tout petit peu différent, la synthèse qu'il essaie de faire entre l'intime et l'extime. Voilà comment nous pouvons, je crois, poser les choses. Alors, concernant l'ouvrage, il présente une architecture assez simple. En tout cas, nous avons essayé de la penser de cette façon-là. D'abord, des entrées définitionnelles pour que chacun puisse s'y retrouver dans ce vocabulaire. Et je viens de vous en donner un petit exemple avec la notion de genre. Ensuite, il y a des entrées thématiques. Et enfin, il y a des entrées qui portent sur le genre dans un certain nombre de sciences. Alors, je pourrais vous en citer beaucoup. Je voudrais en citer quelques-unes simplement sur les entrées thématiques. Par exemple, genre et loisirs est une de ces entrées thématiques. Genre et santé en constitue une autre. Genre et ville. Alors, vous pourriez peut-être vous dire pourquoi penser une entrée genre et ville. Ça peut paraître assez étonnant. Eh bien, Sylvie pourra peut-être compléter ce que je vais vous dire là. En fait, c'est intéressant de regarder une ville à partir du prisme du concept de genre, en se demandant comment les territoires se répartissent selon que l'on soit un homme, une femme, ou selon que l'on appartient à une minorité sexuelle. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, les territoires ne sont pas monopolisés, ni même maîtrisés, ni même pratiqués de la même façon. C'est une entrée pour la géographie tout à fait intéressante. C'est une entrée aussi du point de vue de la politique de la ville, hein, bien entendu. Il y a aussi quelques entrées d'auteurs. Nous avons essayé, là encore ce n'est pas exhaustif, vous vous en doutez, c'est un petit livre, hein, quand on regarde le format, ça reste un petit ouvrage. Il y a quelques entrées par auteur, je vous ai parlé tout à l'heure de Judith Butler, on ne pouvait pas ne pas faire une entrée sur Simone de Beauvoir. Tout le monde maintenant, je pense, a entendu de manière très 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 rebattue la fameuse formule « on ne naît pas femme, on le devient ». Je crois qu'on sait moins que l'on doit à Erasme la formule « on ne naît pas homme, on le devient ». Autrement dit, il n'y a pas plus de féminité naturelle qu'il n'y a de masculinité naturelle. Il y a là une construction, et qui dit construction, une fois de plus, ne dit pas constructionnisme avéré total et sans rapport avec la nature, bien loin de là. Du point de vue de la structure du texte, un dernier petit mot. La conclusion, plus exactement la postface, est faite par la sociologue Christine Détresse, qui est donc sociologue à Lyon, à l'ENS Lyon. Et je crois qu'elle propose une synthèse tout à fait d'actualité et elle nous rappelle aussi l'esprit dans lequel on a travaillé. Je voudrais vraiment insister sur ce point. C'est un esprit d'ouverture et de dialogue. Et on espère que cet ouvrage permettra au maximum de personnes qui veulent s'intéresser à cela et qui est en mesure de se dire « Mais pourquoi est-ce que je pense ça ? Pourquoi est-ce que je suis si rigide sur telle ou telle position ? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour moi d'envisager que d'autres vies que la mienne soient possibles ?» C'est la question qui est reprise un certain nombre de fois dans l'ouvrage. Je vous ai donné l'architecture générale, des définitions, des entrées par thème, des rapports avec un certain nombre de sciences. Chaque fois qu'on change de registre, il y a une question qui accompagne. Et une des questions, évidemment, que l'on retrouve dans l'ouvrage, qui est certainement une des questions qui a été le plus évoquée dans l'actualité, c'est « Le genre est-il une théorie ou une idéologie ?» Eh bien, face à cela, j'ai eu la désagréable surprise il y a quelque temps d'écouter quelqu'un que l'on considère comme un philosophe, Michel Onfray, évoquée sur France Inter du haut d'une conception de son autorité, dire qu'il lui semblait scandaleux, et j'utilise bien le terme qu'il a utilisé, scandaleux d'évoquer dans les manuels de SVT la fameuse et fumeuse théorie du genre, lorsque le journaliste lui a dit « Mais êtes-vous bien sûr qu'on puisse parler de théorie du genre ?» Il dit « Oui, vous pouvez me croire, je l'ai vu dans les manuels. » Il se trouve que si on veut bien avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle et qu'on va regarder de près ce qu'il y a dans les manuels, il n'y a rien de tout cela. Donc vous voyez, c'est très facile de manipuler les individus, de mettre des gens dans une situation d'inquiétude face à leurs propres enfants, face à l'école. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est justement d'éviter ce genre d'attitude, parce que c'est extrêmement problématique. Et autant il faut être vigilant et avoir l'esprit ouvert sur ce que l'on peut enseigner, sur ce que l'on peut divulguer, autant il est extrêmement inéthique et inapproprié de considérer que parce qu'on a une position médiatique, eh bien, on peut s'arroger la possibilité de surfer sur une vague qui s'appellerait la théorie du genre. Alors, je terminerai en vous disant que parler de la théorie du genre, c'est quand même un sacré problème, parce que la théorie, il n'y a pas. Des études sur et à partir du concept de genre, il y a et il y en a beaucoup. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce que l'on peut poser dans cet ouvrage. Vous dire peut-être un mot de conclusion. Nous espérons que cet ouvrage permettra d'ouvrir un certain nombre de discussions et surtout permettra de reprendre une réflexion sur quelque chose qui est en filigrane ici et que j'appellerais la violence normative. Quand nous imposons à des individus, à des enfants, une injonction à être ceci ou cela, sans qu'il puisse y avoir d'espace pour ou de souplesse pour que l'improvisation justement du désir puisse se jouer, que faisons-nous en tant qu'adultes, en tant qu'éducateurs, en tant que parents? Voilà, je vous laisse sur cette question.
Merci beaucoup, Brigitte. Je vais continuer à faire le passeur, puisque c'est le mot qui a été employé. Sylvie, c'est à toi.
D'accord. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, donc moi je suis là pour vous présenter le premier volume d'un travail qui a été élaboré à partir d'un colloque que nous avons organisé en 2013 à Bordeaux et qui s'intitulait « Pour en finir avec la fabrique des garçons ». Ce colloque s'inscrivait dans mes travaux précédents, hein, une publication de 2011 qui s'appelait « La fabrique des garçons, sanctions et genres au collège ». Et nous avons appelé donc des chercheurs, des chercheuses à approfondir la réflexion autour des processus et mécanismes à l'œuvre au sein de l'institution scolaire, des processus hiérarchisants entre les sexes, entre les sexualités. Cette réflexion a été étendue dans le champ du périscolaire, tout ce qui était école dans le premier, donc et sport, loisirs, culture, qui sont regroupés dans un second volume. Je ne les ai pas là avec moi ce soir. Ils viennent juste de sortir, hein, donc ils vont être disponibles à la vente très rapidement. Donc moi, je vais vous parler essentiellement de ce que je connais le mieux, puisque je suis enseignante depuis 30 ans. Je suis en poste actuellement. Je travaille parallèlement sur toutes les questions de violence, notamment, et ce sont ces questions-là qui m'ont amenée à m'intéresser à la construction de l'identité sexuée. Je vais vous en parler. En janvier 2003, le monde de l'éducation propose un dossier intitulé « Allez les garçons ». Alors, plusieurs auteurs y pointent, à ce moment-là, la montée du virilisme, sans alarme, pointent aussi les résultats en chute libre des garçons, des élèves masculins. Quelques années plus tard, en 2009, Jean-Louis Auduc publie « Sauvons les garçons », un ouvrage dans lequel il alerte l'opinion, vraiment, de façon, il pousse un cri d'alarme, hein, que les résultats scolaires des garçons sont en train de s'écrouler, que l'échec est un phénomène massivement masculin. Alors, malgré ces travaux, et depuis plus de 20 ans aujourd'hui, le public cible privilégié de la volonté émancipatrice institutionnelle restent les filles. Hein. Depuis 30 ans, on essaye de hisser les filles à quelque chose de considéré comme plus noble, de supérieur. Alors, en général, ce sont les filières scientifiques, technologiques, etc. Et on n'essaye jamais le contraire, hein, d'essayer d'aller faire les garçons vers les filières de l'aide à la personne, du soin, enfin de tout, du care en général. Voilà. Donc notre système scolaire a multiplié les chartes, multiplié les conventions. À chaque rentrée, nous recevons des notes de rappel. Malheureusement, avec bien peu d'efficacité, même si les choses bougent un petit peu, si effectivement on a des filles maintenant qui vont dans tous ces secteurs-là, on sait très bien que c'est pour un effet extrêmement limité. En tout cas, ce qui ressort, c'est que le système scolaire, notre institution, a beaucoup de mal à penser parallèlement à l'évolution des filles, l'évolution des garçons. Pourtant, si je prends l'exemple du collège, les garçons représentent 80% des élèves sanctionnés ou punis, tout motif confondu, 83% par exemple des élèves punis pour insolence ou indiscipline, pratiquement 92%, 91,7% exactement des élèves sanctionnés pour des actes qui relèvent d'atteinte aux biens et aux personnes. Les garçons représentent également 75% des élèves décrocheurs, donc c'est pas rien, hein. 70% des élèves scolarisés en SECPA, c'est-à-dire des sections d'enseignement général et professionnel adaptées qui accueillent des élèves en grande difficulté d'apprentissage, et 86% des dispositifs relais, où là on est carrément dans parfois des conduites, des comportements extrêmement problématiques et pas seulement au niveau des apprentissages, 86% des élèves de ces dispositifs sont des garçons. Donc vous voyez l'importance de se pencher un petit peu sur l'évolution des garçons. Alors, tous ces garçons que j'ai cités, qui ne représentent pas l'ensemble des garçons, mais une frange des garçons, ont-ils des problèmes, voire des troubles du comportement ou de l'apprentissage ? Mais mes travaux antérieurs sur la construction de l'identité masculine au collège montrent complètement le contraire, c'est-à-dire que leur transgression ou leur soi-disant difficulté scolaire apparaissent au contraire le plus souvent comme des conduites sexuées, c'est-à-dire des conduites sociales pures. Nous n'avons pas affaire à des générations d'élèves qui ont des difficultés, à des générations de, je pèse mes fins, entre guillemets, de psychopathes. Hein. Ces garçons-là, quand nous les interrogeons, et je les interrogeais, nous disent qu'ils font exprès la plupart du temps. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ? Très jeunes, et en particulier pendant les années collège, où la puberté vient sexuer fortement l'ensemble des relations, les garçons se retrouvent aux prises entre deux normes extrêmement puissantes. La première norme, c'est celle de l'école. Qu'est-ce qu'on leur demande à l'école aux garçons ? D'être sage, hein, de ne pas bouger, d'obéir, d'être mignon, de faire ce qu'on leur demande, appliquer, etc., etc. À côté de ça, ils sont aux prises avec la norme de la virilité. Et vous pensez bien qu'à 13 ans, 14 ans, c'est une norme extrêmement puissante. La norme de la virilité, qui va être validée ou invalidée par les pères, par les frères de sexe, hein, qu'est-ce qu'elle leur demande, elle, aux garçons ? Exactement le contraire. Elle leur demande de montrer qu'ils sont capables de répondre aux enseignants, et surtout aux enseignantes, de se montrer indisciplinés, de transgresser les normes, de donner des preuves de leur force physique, hein, au prix de bagarres, au prix de choses comme ça, et surtout, ce qui va structurer la construction identitaire des garçons, c'est le sexisme et l'homophobie. Et là, on a un lien direct entre le sexisme et l'homophobie, ça va être le dénigrement, le mépris systématique de tout ce qui est assimilé au féminin, y compris à l'intérieur de la catégorie des garçons. Donc les garçons vont entrer dans une espèce de course à la démonstration, hein. On est là dans des performances de genre, parce que le but c'est que ce soit extrêmement visible justement pour les autres garçons et pour le public des filles aussi, hein, parce qu'à cet âge-là, évidemment, le public des filles compte aussi. Hein. Donc on va en rajouter 3 tonnes, et que ça se voit le plus possible, quitte à se faire punir, quitte à se faire exclure, parce que de toute façon, les bénéfices secondaires sont suffisamment importants, hein, et le jeu en vaut la chandelle. Voilà, pour prouver, un, qu'on n'est pas une fille, sans démarquer hiérarchiquement, asymétriquement et hiérarchiquement, Deux, qu'on n'est pas un PD, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, donner la preuve aux yeux de la communauté des pères qu'on est un garçon, un vrai. Voilà. La relation pédagogique elle-même est imprégnée de ces rapports-là, puisque la relation pédagogique est également une relation sexuée. Même si on dit les élèves et les profs, hein, comme si, voilà, comme si on n'avait pas de sexe, on sait très bien que la dimension sexuée interfère dans la relation pédagogique. Quand vous avez, par exemple, des garçons de 15 ans qui traitent leur prof de pute ou leur prof, enfin, leur prof femme ou leur prof homme de pédé dans un coup, hein, sur un coup de colère, même si cette dimension-là, homophobe ou sexiste, n'est pas perçue généralement par la communauté éducative, elle existe. Hein, c'est une façon de prendre le pas complètement, de reprendre la main sur la relation et de renverser le rapport hiérarchique. Voilà. Donc, ainsi, aborder la lutte contre les stéréotypes sexuels à l'école sous le seul angle de l'égalité entre les filles et les garçons, c'est ce qui se fait jusqu'à maintenant, ben, nous estimons que ça s'avère extrêmement réducteur et bien peu efficace. Alors, combien de conventions, hein, je disais, la dernière encore, 2013-2018, pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif. Actuellement, au rectorat de Bordeaux, ben, vous avez une mission, des chargés de mission qui sont aussi responsables de l'égalité des chances filles-garçons. En fait, on réessentialise en permanence et on fait comme s'il existait deux catégories uniquement. Les filles qui seraient toutes de la même façon d'un côté, qui fonctionneraient de la même façon, et les garçons de l'autre. Or, on sait qu'à l'intérieur, enfin, que la catégorie fille est hautement hétérogène et que la catégorie garçon est hautement hétérogène également. Voilà. Donc, nous postulons dans ces deux ouvrages que c'est seulement en nous attaquant à la racine du phénomène, à savoir l'éducation des garçons, hein, et en identifiant les facteurs de résistance au changement, que les choses pourront évoluer. On ne peut pas émanciper la moitié de la population, les filles, sans émanciper l'autre moitié, les garçons, hein, des déterminismes sexuels. Le problème n'est pas de sauver les garçons, le problème n'est pas de lutter pour l'égalité, le problème n'est même pas de combattre l'homophobie, le problème c'est d'en finir avec la façon dont on continue à les fabriquer. De contrer les mécanismes scolaires, qui sont des mécanismes sociaux, mais aussi périscolaires, qui encouragent les enfants de sexe masculin à quoi ? À réprimer, ben, peu à peu leur goût personnel, parce que c'est un garçon, c'est quoi ? Hein, c'est ça ? Leurs émotions, un vrai garçon, ça ne pleure pas, ça n'a pas mal, ça n'est pas affecté. Leurs affects, leurs relations à eux-mêmes et à autrui, et qui peuvent en conduire certains, et j'ai des chiffres que je garde pour le débat éventuellement, lorsqu'ils deviennent adultes, à la violence conjugale, on les retrouve là, à la criminalité routière, au suicide, etc. D'accord ? Alors ces mécanismes scolaires, ces processus à l'œuvre au sein même de l'institution scolaire, ils sont identifiés sous la forme de nature différente. Ces mécanismes sont à la fois symboliques, idéologiques et politiques. Alors symboliques, pourquoi ? Parce que la pensée égalitaire à l'école, elle a l'effet pervers de relativiser, voire de rendre totalement invisibles les anciennes et profondes structures de domination qui continuent à traverser notre institution, qui pèsent sur elle, et qui vont s'incarner en particulier dans des pseudo-rites de virilité chez les garçons. Nicole Mosconi, par exemple, hein, je pense que tout le monde la connaît, ou à peu près, montre que, alors qu'il existe une sorte de schizophrénie, un petit peu, dans l'éducation des garçons, c'est qu'en même temps qu'on veut les éduquer à l'égalité des sexes, qu'on met en place des dispositifs, par exemple, au sein de l'école, on attend d'eux qu'ils se forment à une masculinité hégémonique avec les démonstrations permanentes que cela suppose en sein de domination. Pourquoi ? Parce que dans la société civile, tout leur montre le contraire. Hein. Oui, on veut faire l'égalité filles-garçons à l'école, mais partout où ils regardent, que ce soit dans les médias, dans la rue, autour d'eux, dans leur famille, on leur montre le contraire. Ça leur montre le contraire. Et ça leur dit que devenir un homme, ben, c'est en passer par là. Voilà. Plusieurs auteurs donc, se sont penchés sur ces mécanismes symboliques. Séverine de Poilly, par exemple, analyse les processus de survisibilisation des garçons de milieux populaires dans les actes de transgression scolaire, qui coupe complètement la relation, qui c'est une fin de non-recevoir, impossible d'entrer en contact, c'est un refus complet de la relation. Vincent Chapon, qui est bordelais aussi, étudie le rôle de la sanction, lui, dans la construction de l'identité sexuée des garçons des classes dominantes. Il a travaillé sur les lycées plutôt privés ou lycées d'excellence. Voilà pour les processus symboliques. Le deuxième chapitre, lui, traite davantage des mécanismes idéologiques. Alors, idéologiques, pourquoi ? Parce que nos pratiques professionnelles, l'évaluation, par exemple, hein, qui va donner ou pas de la valeur au travail ou à la carrière scolaire de l'élève, la sanction qui va venir valider ou invalider les discours et les actes d'un individu, l'orientation qui va mobiliser des schèmes stéréotypés sur les aptitudes et les propensions dites naturelles respectives des filles et des garçons, eh bien, toutes ces pratiques professionnelles sont sous-tendues par des idéaux éducatifs qui sont eux-mêmes traversés par les normes éthiques, sociales et politiques. Un article, par exemple, d'Evelyne Bartou montre comment les enseignants ou les conseillers d'orientation psychologues, en l'absence de formation à la problématique du genre, et là je renvoie à ta définition, continuent à mobiliser en permanence hein, ces schèmes stéréotypés. Et ces schèmes, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils créent des attentes. Hein, et l'attente, disait Judith Butler, fait advenir son objet, c'est-à-dire on est dans la prophétie auto-réalisatrice, complètement. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de naturel. Les travaux de Céline Delcroix révèlent comme l'institution et les enseignants, par exemple, disqualifient complètement la dimension émotionnelle et relationnelle du métier, l'invalide. Hein. C'est une dimension qu'ils assimilent à une forme de maternage, avec un jugement extrêmement sexiste, aux antipodes de ce qu'ils estiment être une posture professionnelle. Didier Chavrier montre comment l'évaluation en éducation physique et sportive sélectionne et légitime finalement les capacités des élèves, ségrègue les sexes et les hiérarchise. Et enfin, le troisième et dernier chapitre va interroger les processus à l'œuvre sous un aspect plus politique. Quel rôle la normativité des rôles de sexe et des sexualités joue-t-elle dans nos politiques éducatives ? Arnaud Alessandrin, qui est ici, qui est auteur dans cet ouvrage, complexifie par exemple l'analyse de la hiérarchisation des sexualités dans l'institution scolaire et l'augmente d'une nouvelle figure qui est toujours pour l'institution scolaire de l'ordre de l'impensable, de l'inimaginable, celle des personnes trans, justement. Hein. Maud Giustomin, qui est là, et Karine Espinera aussi, qui sont cofondatrices de l'Observatoire des transidentités et qui ont participer aussi à ce premier ouvrage, nous révèle les souffrances terribles hein, des enfants lesbiennes, gays, bi, trans ou intersexes dans une école qui ne les reconnaît pas. C'est même pas qu'elle ne les accepte pas, c'est qu'elle ne les reconnaît pas, elle ne les imagine même pas. Voilà. Alors que, depuis les années 60, hein, des dizaines de reportages radio, télévisuels, de films, d'articles leur sont consacrés, et que ces figures d'identité et de sexualité différentes sont bien connues du grand public. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ces enfants-là ? Bah, déscolarisation, placard, brimades diverses et variées, discrimination, etc. Voilà. Alors, parce qu'une école émancipatrice doit être à nos yeux une école accueillante, une école tolérante et une école égalitaire, voilà, je rappelle la devise républicaine quand même à ce sujet, hein, dans lesquelles les enfants apprennent le respect de toutes les différences. Nous avons choisi donc dans ce troisième et dernier chapitre de regrouper les articles qui développent l'utopie de l'assouplissement des standards de genre, d'une éducation queer, entendue comme combat contre l'ordre social des sexes et des sexualités, le système de pouvoir hétérosexuel et hétéronormatif. On se prend à rêver avec Maria Rita de Aziz César, qui est aussi des contributrices, à une école qui tourne le dos aux évidences, aux certitudes, et qui apprenne à vivre avec l'inconnu et avec le non-savoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Sylvie, je crois que la transition est donc toute trouvée. Modieste Thomas, pour la présentation du volume 4 des Cahiers de la transidentité. La parole est à vous, à toi.
Merci. Alors, après deux interventions comme ça, c'est vrai que je me suis dit, surtout en écoutant Sylvie, je dois être dans le mauvais rôle ou peut-être dans le mauvais endroit, puisque je suis à l'endroit exact de cette fabrique idéologique où on transforme des filles en garçons et pire, des garçons en filles. Évidemment, dans une société patriarcale. Alors, vous venez d'entendre avec Sylvie Héral un aperçu de cette école comme fabrique des garçons où plus que jamais les identités tiers sont totalement invisibles. Et dit-elle, l'école ne les imagine même pas parce qu'elle ne les voit pas. On ne fabrique pas des garçons en filles ou l'inverse à l'école, c'est exactement l'inverse. Alors, en synthétisant toutes les analyses des auteurs de ce volume, nous avons pu tirer quelques enseignements sur cette relation entre école et transidentité. Alors, juste un petit mot sur le terme transidentité. C'est un mot qui nous vient d'une universitaire allemande. Autrefois, on parlait de transsexualisme. Cela mettait l'accent sur le mot sexe, sur le mot sexualité. Alors que pour ces personnes, trans, transsexe, transgenre, travesti, mais aussi les personnes intersexes, eh bien, il s'agit d'identité, d'où le terme de transidentité. Un voyage, un passage d'une identité à l'autre. Alors, la première analyse pour cet ouvrage, c'est d'abord et avant tout notre point de départ, soit le constat que la famille et l'école sont deux sites particulièrement sensibles pour le développement et la socialisation des identités, de toutes les identités, mais en particulier de ces identités effacées et invisibles. Et elles restent encore des sites où les efforts à faire sont les plus grands. Alors, l'ignorance, volontaire ou non, et les maltraitances et violences familiales se retrouvent intégralement à l'école. Tous les dénis, tous les silences, toutes les ignorances à l'école se redistribuent intégralement à l'école et elles peuvent se cumuler où l'enfant n'a absolument plus aucune place, ni dans la famille, ni à l'école, et devenir ainsi le terreau d'une déscolarisation, mais plus grave, des tentatives de suicide au moment du passage de la puberté vers l'adolescence. Alors par ailleurs, au même endroit, la focalisation sur la lutte contre l'homophobie, eh bien, tend à masquer très largement la transphobie, soit la discrimination envers les personnes trans. Alors, nous avons voulu enquêter sur ce qui se passait en France, au Luxembourg, au Québec, au Brésil, sur cette relation très tendue entre école et transidentité que nous avons nommée tableau noir, pour signifier que ce constat restait très alarmant quand il n'est pas rendu catastrophique, notamment en Brésil où les discriminations ajoutent à la pauvreté, la déscolarisation, la prostitution ou carrément les meurtres de personnes trans et travesties. C'est le pays où il y a le plus de meurtres des personnes trans. Par ailleurs, que tous les efforts, y compris en France, pour renverser, à défaut d'annuler cette situation, eh bien, elles sont facilement réversibles. On l'a vu avec les événements qui se déroulent en France. Alors, la loi de 2010 sur l'identité de l'Argentine, non, l'identité de genre en Argentine, qui rend aux personnes leur état civil, c'est-à-dire la possibilité de modifier cet état civil, notamment par exemple juste le prénom, pour faciliter notamment la scolarisation. Elle repose en Argentine non pas sur qui est trans ou pas, mais beaucoup plus simplement sur un constat socio-économique de pauvreté et de vulnérabilité. Alors, à la suite de cette loi en Argentine, des projets de rescolarisation dans des lieux protégés ont pu être mis au point pour les transidentités dans ce pays où 80% des trans sont totalement déscolarisés. Alors, au cours d'une intervention dans le lycée Max Linder à Libourne, hier après-midi, nous avons pu constater qu'un tel effort, par une pratique soutenue, est quand même possible à l'école. Non seulement elle est payante, mais enrichissante pour tout le monde, et pas juste pour des personnes invisibilisées, en ajoutant de la diversité dans les relations et de la nuance dans chaque individu. Un professeur d'art plastique a organisé une exposition avec sa classe en amont de notre intervention. Il y a une projection sur la formation que nous allions donner. La classe proposait de réfléchir sur le genre, les stéréotypes imposés, ce qu'il en coûte d'exprimer une variance de genre, mais aussi ce que cela enrichit. 5 classes étaient présentes pour 245 adolescents et adultes pour cette formation. Nous avons pu constater au cours du débat qui a suivi les films comment, à son tour, la question trans peut aussi, dans sa focalisation, de par son aspect particulier entre le scalpel psychiatrique et chirurgical, pouvait également effacer la question plus vaste des variances de genre, c'est-à-dire la possibilité pour chaque individu d'exprimer une masculinité et une féminité dans une même unité de relation, combien les discriminations ou l'ignorance peuvent effacer le peu de bienveillance qui sont organisées. Ça rejoint une question précise que pose Sylvie Hérald dans son entretien à propos du film Tomboy, film de Céline, Valérie Sciamma. C'est Céline. Elle demande à propos de la fin du film, pourquoi ne pas avoir imaginé que Laure puisse s'inscrire dans sa nouvelle école sous le prénom de Michael, ça, son alter ego masculin. Eh ben, nous, on a posé cette question lors de cette formation aux adultes de ce collège et aux enfants et aux adolescents qui étaient là. Ça suppose ce débat, mais aussi un effort soutenu et accompagné par une formation, un adulte référent à l'intérieur de l'école, qui puisse répondre aux enfants et adolescents les plus fragiles, généralement en difficulté scolaire, voire au bord de la déscolarisation, surtout à partir de 13 ans. Concrètement, qui décide pour ces enfants ou adolescents sur cette demande, par exemple, juste d'un changement de prénom qui faciliterait sa scolarisation? Comment parler à la famille, aux autres enfants ou adolescents de la classe? Comment veiller à ce que cet acte de bienveillance n'amplifie pas l'isolement ou la fragilité de l'enfant? Comment l'enfant, avec son nouveau prénom, va se resocialiser avec ses copains et copines? Vous voyez bien que ça engage énormément de choses. On n'est pas simplement dans le passage d'une identité sexuée ou de genre à une autre, mais que cela engage énormément de questions et surtout tout l'environnement. Toutes ces questions sont donc très compliquées, longues à mettre en place sans cet adulte scolaire référent qu'il faut former. Mais le pire, c'est de ne rien faire. Pour les enfants, le fait de découvrir qu'il y a des minorités dans une démocratie culturelle de droit est très déstructurant, surtout si cela est accompagné d'un isolement et de violence à la fois dans la famille et à l'école. David Latour, un garçon trans devenu professeur des écoles et enseignant aujourd'hui, analyse ainsi ce qu'il a vécu dans son enfance et adolescence, dans un isolement complet de sa transidentité, et ce qu'il analyse aujourd'hui de la situation des jeunes trans actuellement. Eric Schneider, un psychiatre au Luxembourg, tente d'intervenir en amont, à la fois dans la famille et l'école, mais aussi de travailler sur une protection socio-juridique pour améliorer les choses avec le gouvernement au Luxembourg et en Allemagne. L'enquête de Lynn Chamberlain et Gabriel Richard au Québec offre un panorama saisissant des rapports entre un modèle normatif d'une hétérosexualité qui compose non seulement une orientation sexuelle, à savoir l'hétérosexualité, l'homosexualité la bisexualité, la sexualité ou la pansexualité, mais encore ce qui donne la partition d'une identité de genre habituelle ou sous la forme d'une variance, c'est-à-dire masculin, féminin ou autre. Précisément ce que soulevaient ces classes en art plastique, en philosophie, en cinéma et en théâtre, soit quatre classes dont les professeurs nous disaient toutes qu'elles étaient d'abord et avant tout des classes refuge où les différences ressenties par les enfants peuvent être sinon mieux vécues, où on peut en parler, où en faire des tableaux plastiques, au moins ne pas subir une oppression normative qui isole les enfants. Les adolescents, au cours du débat, montraient parfaitement ce cheminement difficile qu'il y a à être soi-même. C'est l'expression qui a été le plus utilisée dans la relation, sans devoir céder à une normativité effaçante, ni être victime de violence et d'isolement, voire de retrait total de soi, constituant pour l'adolescent des pathologies de repli qui peuvent être très graves. Alors, de cette somme, on peut tirer tout un tas de conséquences. Je vais me contenter de sérier ce qui est le plus prégnant dans toutes ces études qui concernent autant l'Europe, l'Amérique et les autres aires socioculturelles. L'augmentation des discriminations sont corrélées pour les enfants à une augmentation du stress, un isolement, des risques accru de décrochage scolaire, voire des tentatives de suicide. Les violences augmentent avec le facteur de non-conformité de genre, surtout pour des garçons féminins, mis sur le compte d'une homosexualité réelle ou perçue comme telle. Les présupposés psychologiques infondés sur des individus en questionnement de leur genre, rabattus sur l'orientation sexuelle et de préférence sur une homosexualité. Le critère du genre disparaît totalement sous le critère de l'orientation sexuelle, pensé comme étant l'identité sexuelle future des individus et effaçant leur identité de genre et expression de genre. Les discriminations entre hommes et femmes, masculin et féminin, hétérosexualité et homosexualité effacent massivement les transidentités et variances de genre. 5. Des adultes référents en situation de dominance, professeurs, personnel administratif, médical ou autres, peuvent, parfois sans même le savoir, amplifier l'effacement de ces différences cruciales pour le développement et s'allier une scolarisation dont dépend notre vie active. Alors, je signale l'usage de termes que j'ai vus dans tout un tas de textes comme non-conformité de deux genres, genre atypique, genre différent, qui montre l'impact du langage, et je n'oublie pas la version médicale de dysphorie de genre, l'usage d'expressions comme des maladies ou des troubles de genre, construisant une théorie d'une incohérence structurelle du transsexualisme, c'est-à-dire du passage d'une identité sexuelle à une autre, et je dis bien d'une identité sexuelle à une autre, qui a permis le maintien d'une psychiatrisation des personnes trans sur la seule évocation d'une psychose d'un seul auteur en 1949. Confronté aux événements autour de la manif pour tous et d'un haro sur la théorie du genre, l'on maintient le lead de l'interventionnisme médical et psychiatrique dont la seule compétence réside dans la reproduction de normes hégémoniques de sexualité et de genre. L'école et la famille se déchargent ainsi sur le seul acteur social qui reste en lice, les médecins, qui ont les faveurs d'une conception naturaliste de l'État et son système d'État civil inamovible sur la base d'une théorie d'une hétérosexualité naturelle. Au total, l'école est un lieu crucial pour l'enfant exprimant son développement et sa future identité en sus de sa scolarité. Trop souvent, l'école oblitère ce qui est tu ou à peine parlé dans la famille, masque des parcours de vie en les laissant d'étiquettes infamantes ou en les laissant dans un dénuement total.
Merci beaucoup, Maud. Avant de clore, la semaine dernière, j'ai été appelé par un rectorat, donc je ne vais pas dire lequel. En face de moi, j'avais une personne perdue, me disant qu'un proviseur avait refusé d'inscrire un jeune garçon trans dans un collège parce qu'il n'y avait pas la case garçon en face de son état civil fille. Et la conclusion de ce proviseur, ça a été, comme il n'y a pas la case, je ne peux pas l'appeler il. On voit bien ici le poids de l'état civil. Puisqu'il n'y a pas la case, le proviseur s'était autorisé à appeler pendant toute la scolarité ce garçon elle. Rien n'oblige par contre un proviseur à appeler il ou elle un garçon. Donc on voit bien que les réalités juridiques ont des conséquences relationnelles extrêmement fortes. La clepsydre se vide, donc on va devoir se quitter. Je vous remercie, on vous remercie.
Nous vous remercions de votre présence.
Beaucoup de votre présence.